Vous écoutez RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Invité des auditeurs et des électeurs ont la parole. Pascal Perrineau, hein, que vous connaissez bien, politologue, professeur à Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là pour nous éclairer donc sur les éventuelles conséquences d'attentats d'hier des Champs-Élysées. Rien ne doit entraver ce moment démocratique. Je faisais allusion à l'instant à ce tweet de Donald Trump. Il dit « L'attentat de Paris aura un gros effet sur l'élection présidentielle ». Est-ce que vous êtes d'accord avec le président des États-Unis ?
Je dirais un effet certainement. Un gros effet, peut-être pas. Nous avons quelques points de comparaison. Souvenons-nous, c'était il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année 2015, il y avait des régionales en décembre 2015 et il y avait eu les sinistres attentats de Paris au mois de novembre, quelques semaines auparavant. Et on avait vu, à l'époque, entre les sondages du mois de novembre et les résultats du mois de décembre, une hausse environ de 2,5 points pour les listes du Front National au Régional. Donc il y avait eu un effet attentat, il ne s'agissait pas d'un gros effet, mais 2,5 points, vous voyez, dans une situation où depuis des semaines et des semaines, on constate un resserrement entre les quatre candidats pour se sélectionner à l'issue du second tour, ça peut être tout à fait décisif. Peut-être marginal statistiquement, mais décisif politiquement.
Les événements qui se passent juste avant un scrutin peuvent avoir des conséquences. On se souvient de la polémique
c'était en 2002,
hein, avec ce fait divers d'un retraité d'Orléans qui s'était fait tabasser et dont l'affaire avait été exploitée.
Tout à fait. On se souvient très bien que cette affaire de violence dans un quartier d'Orléans avait eu un impact, ça avait été très relayé par les médias, on avait vu le visage tuméfié de ce pauvre homme sur de multiples écrans. Et bien sûr, cela avait fait en sorte que l'enjeu de la sécurité, tout d'un coup, était devenu le premier enjeu. Et là, on voit très bien qu'au fond, depuis des semaines, on parlait de quoi ? On parlait d'Europe. De protection sociale, on parlait d'Europe, on parlait de choses diverses et variées, certainement très importante, mais on ne parlait plus de l'enjeu de la sécurité extérieure et intérieure. Et tout d'un coup, cet attentat d'hier soir ramène au premier plan l'enjeu de la sécurité. Donc cela va contribuer certainement à façonner chez les électeurs, quand ils seront dans l'isoloir dimanche, d'autres attentes. On se dira, mais au bout d'un bulletin de vote, il y a un homme ou une femme, est-ce qu'on a envie de lui confier les manettes du pouvoir présidentiel dans une conjoncture qui est tout de même une conjoncture grave et peut-être même tragique.
Vous restez avec nous, Pascal Perrineau. Vous allez pouvoir dialoguer dans un instant avec nos auditeurs. On va commencer par Didier, qui va changer son vote dimanche.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Tout de suite, on refait le marché sur RTL.
Direction le marché de la Varenne-Saint-Hilaire à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Chaque jeudi et dimanche matin, on est attiré par les odeurs et les couleurs. De belles fraises bien rouges, des poulets qui rôtissent et les brochettes de légumes, aubergines, tomates et mozzarella de Colozzimo Guglielmo, le traiteur italien qui est calabré et va tous les 15 jours chercher ses produits en Italie.
On essaie de faire que de la qualité, bien sûr, sans vous parler aussi de la charcuterie. Hein. C'est la charcuterie fine italienne. Quand c'est tranché très très fin, on apprécie beaucoup plus et on en mange plus. On ne sait pas le trancher en France. C'est dommage.
Bah, comment ça, on sait pas le trancher ?
C'est un peu épais, quoi. Voilà, c'est des steaks, quoi. Quand on goûte une tranche de San Daniel très très fine et une tranche en épaisse, ça n'a pas le même goût déjà. Au palais, ça n'a rien à voir.
J'ai l'impression qu'on va se régaler.
On en mange plus, hein. Faire attention à la ligne. Pas bien, hein ? Pas benissimo. Grazie.
Le marché de la Varenne-Saint-Hilaire fait partie des marchés préférés des Français.
C'était On refait le marché avec le marché préféré des Français de Saint-Mauray.
Tout le plaisir du bon goût primeur avec Saint-Mauray.
RTL 13h11.
Truffaut met de la couleur dans votre printemps. En ce moment, l'hortensia fleurie en pot de 5 litres est à 9,95 €. Il sera parfait pour votre jardin, balcon ou terrasse. Il ne vous reste plus qu'à choisir sa couleur. Et profitez. Retrouvez tous nos magasins sur truffaut.com. Truffaut, jardin, animaux, maison.
Offre valable en magasin jusqu'au 22 avril et sur truffaut.com.
Vous n'êtes toujours pas devenu propriétaire de vos mètres carrés que j'ai dit ?
Non, j'attends.
Même si vous savez que les taux sont toujours très bas ?
Ben oui, j'attends.
Et même si vous savez que vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro ?
Absolument. Et que Cogedim vous offre un pack de personnalisation prête à vivre en plus?
Tout à fait.
Mais qu'est-ce que vous attendez?
Eh bien que vous arrêtiez de me poser des questions. Après, j'y vais.
Vous verrez la différence. Cogedim. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur cogedim.com.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Vincent Parisot.
L'attaque des Champs-Élysées peut-elle vous faire changer votre vote? C'est la question du jour sur RTL.fr. C'est aussi l'objet de notre débat. Vous êtes 21% tout de même à nous dire sur RTL.fr que vous êtes prêt à changer. Nous sommes avec Pascal Perrineau, le politologue, et avec Didier qui nous appelle de Chantilly. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
Bonjour Didier. Vous avez décidé de changer votre vote ?
Complètement. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de votre invité, Pascal Perrineau. Moi, je suis sur une révolte, mais une révolte apaisée. Je pense qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. On a beau mettre en place toutes les politiques du monde avec tous les objectifs que nos candidats à l'élection présidentielle avancent. Si l'élément fondamental de la sécurité n'est pas en fait garanti, et ben en fait on aura beau mettre tout en place, ça ne marchera pas. Et donc j'étais sur un vote plutôt apaisé, mais là je me dis que aujourd'hui quand je vois le profil des gens qui nous terrifient et qui ont des actes aussi odieux, on connaît l'historique de ces gens, on connaît en fait leur dangerosité, ils sont suivis, ils sont absolument identifiés, et il y a un laxisme énorme au niveau gouvernement et volonté politique pour écarter ces gens.
Juste un mot, Didier, on comprend qu'effectivement vous avez décidé de modifier votre vote, mais est-ce que ça veut dire que finalement vous aviez un petit peu oublié au fil de la campagne qu'on était sous la menace du terrorisme, qu'on était en état d'urgence, et que finalement ces notions de sécurité et de lutte antiterroriste étaient passées après d'autres notions telles que, je ne sais pas moi, l'Europe, les impôts ou d'autres choses?
Oui, c'était naturel de s'intéresser en fait aux sujets principaux de l'élection présidentielle. Ça me paraissait logique, mais je pensais que derrière, vu l'état d'urgence, les éléments qui devaient être en place garantissaient un minimum de sécurité. Alors, la sécurité à 100% n'existe pas, on le sait bien, mais quand on voit qu'en fait ce sont des gens qui sont parfaitement identifiés, qui nous terrifient aujourd'hui, là je trouve qu'il y a un laxisme énorme, et je me dis que derrière, il y a en fait une obligation de résultat.
Voilà. Oui, donc Didier, vous êtes plutôt favorable aujourd'hui là à quelqu'un qui serait prêt à changer l'état de droit?
Complètement.
Changer la loi pour aller vers plus de fermeté?
Complètement. Et quand on identifie des gens dangereux, et ben derrière on met en place les actions qui permettent d'avoir la sécurité et de garantir la sécurité pour nos familles, nos enfants et des gens qui n'ont rien à voir avec ces histoires. Et donc voilà, je voudrais que, et j'échange mon vote aujourd'hui effectivement pour des personnes qui ont un programme qui peut-être ne me satisfait pas dans la globalité, mais qui assure un élément fondamental de notre constitution, qui est la sécurité des citoyens. Et donc ça, c'est essentiel.
Bien, on vous remercie. Vous pouvez évidemment rester avec nous si vous le souhaitez, Didier. On vous remercie de ne pas avoir trop cité de candidats. Ça nous arrange, nous, pour nos affaires d'égalité de temps d'antenne et de temps de parole. Merci beaucoup. On a Denis qui a fait le 32-10, qui nous appelle d'Amiens. Bonjour, Denis.
Bonjour, RTL.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. En ce qui me concerne, moi, je suis conforté dans le choix que j'avais d'un candidat qui a été très attaqué et qui a un programme très clair depuis longtemps sur la question. Et au niveau de mon entourage, là, c'est clair. Des personnes qui, initialement, étaient pour le même candidat, mais avaient changé suite à certaines affaires, repartent vers leur candidat d'origine. Parce que là, ils ont bien compris que c'était lui qui était le plus sérieux face à ça, qui avait un programme depuis longtemps très, très assis sur la question.
Donc vous confirmez, Denis, que ce qui s'est passé hier soir a créé quand même un choc chez certains électeurs.
On avait oublié la campagne, parler de quantité de sujets, mais un sujet qui était totalement essentiel. On a quand même oublié le Bataclan, Nice, tout ça. Ce sont des drames terribles qui ont frappé la France. Et donc là, on était en train d'oublier, et puis tout un ensemble médiatique qui était sur certains points qui nous ont fait oublier la campagne. Donc là, c'est clair, les gens reviennent aux fondamentaux. Il nous faut quelqu'un qui assure la sécurité du pays, et aussi, par derrière, une chambre qui assure. Or, certaines personnes qui étaient parties vers ce candidat très en vue se rendent compte que la majorité qu'il va avoir, c'est très aléatoire. Les investitures pour son parti, c'est fait sur Internet avec des gens qui peuvent raconter n'importe quoi. Et un responsable de cette commission d'investiture.
N'allons pas trop vite parce que là on est déjà sur les législatives avec vous.
Pascal, non, attendez, je vous interromps une toute petite seconde, Denis. Pascal Perrineau, vous disiez tout à l'heure que finalement ça n'avait rien changé au régional de 2015.
Ça avait changé.
Voilà, mais est-ce que là justement ça peut avoir un effet encore décuplé parce qu'il y a eu tous les des tas d'autres attentats derrière. Il y a eu Nice après.
Oui,
entre autres.
On le voit.
Et on a l'impression qu'il y a un millefeuille.
Oui, on le voit bien. Cet attentat d'hier soir a réveillé tout un refoulé. En effet, nombre d'électeurs avaient préféré oublier. On préfère oublier l'horreur. Et l'horreur s'est réinvitée au cœur même de la campagne présidentielle.
Enfin, les candidats aussi ont un peu oublié. On ne les a pas beaucoup entendus sur ces sujets-là.
Alors qu'il y a de nombreux mois, il y a 4 ou 5 mois, la première préoccupation des Français, c'était le terrorisme. Et puis, peu à peu, en effet, voilà, les affaires, les enjeux divers et variés au plan économique et social ont fait oublier aux Français et à la classe politique, et peut-être plus à la classe politique qu'aux Français, que cette 10e élection présidentielle sous la 5e était tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois qu'il y a une élection présidentielle qui se tient sous état d'urgence.
Oui, oui. Vous restez avec nous, évidemment, Pascal Perrineau. On va se retrouver dans un instant au 32-10. Je vous donne une information football, puisqu'on vient d'avoir le tirage des demi-finales de l'Europa League. Ça ne sera pas facile pour Lyon qui a tiré l'Ajax d'Amsterdam avec match aller à Amsterdam. Hein, les Lyonnais auront donc l'avantage de recevoir sur leur terrain. L'autre demi-finale mettra donc aux prises le Celta Vigo et Manchester United. Bon, Lyon a quand même évité l'ogre mancunien. Bah, de toute
C'est
façon,
déjà ça.
Voilà. Et puis ça, on y reviendra évidemment à 14h. On marque une pause. À tout de suite sur RTL.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et les sauveteurs aussi peuvent prendre la parole s'ils le souhaitent dans quelques minutes. On sera avec le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fédération ainsi que l'association des médecins urgentistes ont remis un rapport à Juliette Méadel, la secrétaire d'État aux victimes. Un rapport pour généraliser la formation aux gestes qui sauvent. L'objectif, c'est de former 80% de la population, que 8 Français sur 10 sachent tout de suite apporter les premiers secours et faire les premiers gestes qui sauvent, que ce soit en cas d'attaque terroriste ou évidemment d'accident de voiture ou autre. Vous êtes pompier, vous êtes secouriste, vous aimeriez une formation, n'hésitez pas à faire dès maintenant le 32-10. Encore un mot, Laetitia, vous avez un cadeau pour toutes celles et ceux qui passent à l'antenne aujourd'hui en faisant le 32-10.
Exactement, aujourd'hui c'est la sortie du nouvel album de Texas, Jump On Board, en partenariat avec RTL. Alors tout au long de la journée, nous vous faisons découvrir cet album dans chacune des émissions et nous l'offrons à chaque auditeur intervenant à l'antenne. Sachez aussi que Texas jouera ses nouveaux titres samedi dans le grand studio RTL d'Éric Jean-Jean à 15h et 23h sur RTL.
L'attaque des Champs-Élysées peut-elle changer le résultat du premier tour de l'élection présidentielle ? Nous sommes toujours avec le politologue Pascal Perrineau et avec Martine qui est dans l'Essonne. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Bonjour Martine.
Soyez bienvenue. La bienvenue. Alors,
merci. Dites-nous.
Que vouliez-vous nous dire ?
Alors moi, ce que je tenais à dire, c'est que dans la situation actuelle, ce qui me désole un petit peu, finalement, c'est qu'on ne sache pas à qui on va confier le gouvernement. Parce qu'on élit un président, mais le président ne choisit pas le gouvernement, il va choisir son premier ministre.
Ouais.
Or, dans l'état actuel des choses, je pense qu'il nous faut un ministre de l'Intérieur fort, un ministre des Affaires étrangères avec des compétences, et un ministre de l'Intérieur, bien évidemment.
Ce que vous aimeriez, c'est que les candidats vous disent, voilà, si vous m'élisez, moi je mettrai telle personne à Matignon, telle personne au ministère de l'Intérieur, et telle personne au ministère des Affaires étrangères, au moins dans mon premier gouvernement, si je comprends
voilà,
bien.
Voilà, au moins dans le premier gouvernement. Je pense que c'est primordial. On ne peut pas laisser ces postes qui sont super importants, qui demandent une certaine expérience, à des jeunes. Il est évident qu'il faut quelqu'un qui tienne la route.
Et oui, parce que...
Et qu'il soit écoutés au niveau international. Mmh. Il ne suffit pas d'arriver sur le marché avec plein de bonnes intentions, parce qu'il y en a qui ont des bonnes intentions, il y en a d'autres qui veulent les postes par copinage. Enfin, on sait très bien comment ça va se passer. Entre ceux qui rallient parce qu'il y a les législatives qui arrivent, d'ailleurs je pense qu'il y aurait une loi à faire pour qu'il n'y ait pas des législatives qui suivent des présidentielles, peut-être que ça changerait quelque chose aussi, parce que certains se rallient pour avoir des postes.
Par le quinquennat, de toute façon,
c'est pour qu'il y ait une majorité pour le président. Non, mais Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Martine Global?
En effet, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que fait retour, après un vent de renouvellement radical qui souffle depuis des mois sur cette élection présidentielle, fait retour l'idée de l'homme ou de la femme d'expérience. Parce que, en effet, quand tout tangue, quand les dangers sont à la fois des dangers extérieurs, des dangers intérieurs, en effet, la figure de l'homme d'expérience fait inévitablement retour. Les Français ont légitimement envie d'être protégés. Et ce qui était vilipendé il y a encore quelques semaines revient au premier plan. Et d'autre part, on le voit bien dans ce que dit l'auditrice, c'est le retour du régalien. On a beaucoup parlé d'autre chose, mais là, la politique, on revient au cœur de la politique. La politique, c'est le maintien de l'ordre. On revient à des choses fondamentales de l'ordre politique. Et peut-être que cela risque de changer la donne dans les deux jours qui nous séparent maintenant du verdict du premier tour.
Je voudrais qu'on prenne Guillaume en ligne qui nous appelle de Reims. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Ce qui s'est passé hier soir change quelque chose pour vous ?
Ah oui. Franchement, je vais complètement changer mon vote au premier tour. Je m'étais dirigé vers un candidat qui avait un petit peu remis en place les gros candidats favoris lors du premier débat.
Oui, on l'a trouvé.
Mais au vu de ses propos d'hier, je trouve ça vraiment inadmissible et scandaleux ce qu'il a pu dire sur nos forces de l'ordre. Et je ne conçois pas qu'on puisse désarmer les policiers, surtout dans l'état actuel des choses.
Donc vous modifiez votre vote, mais alors, ça reste dans globalement la même famille politique ?
Ça restera du même côté politique, oui. Mais
En tout cas, vous allez lâcher le petit candidat, entre guillemets, pour quelqu'un d'un peu plus solide.
Et d'expérience. Oui. Là, on revient aussi sur ce, on revient sur ce qu'on disait à l'instant.
Est-ce que ça
ne
va pas aussi désavantager les petits candidats, cet épisode Pascal Perrineau ?
Oui, c'est en effet pour les petits candidats un grand défi, parce que par définition, la plupart des petits candidats n'ont que très peu, sauf exception, n'ont que très peu d'expérience de gestion et de gestion politique à un haut niveau. Lorsqu'on revient au noyau dur de la politique, quand on revient à la politique avec ses fonctions régaliennes, le maintien de l'ordre, etc., on se tourne vers des hommes et des femmes d'expérience. Mmh. C'est inévitable. Et donc, les marginaux ou ceux qui sont en marge du système, en effet, se mettent à souffrir politiquement.
Et puis, il y a peut-être aussi ce réflexe donc, de faire bloc face à une attaque qui fait qu'on peut aussi se retrouver, j'allais dire, sur des schémas plus classiques que ceux auxquels, effectivement, cette élection si particulière pensait nous destiner.
En effet, c'est une élection extrêmement indécise, où on avait l'impression que s'inventaient, à gauche, à droite, au centre et ailleurs, de multiples formules. Et tout d'un coup, c'est le retour en force du principe de réalité. Et autour de ce principe de réalité, on voit bien comment l'offre politique n'est plus une offre politique à 11 candidats. C'est une offre politique à beaucoup moins.
Mais ce principe de réalité, est-ce qu'il peut avoir une influence aussi sur le taux de participation ?
Oui, on peut avoir... on était plutôt... Tous les sondages montraient qu'on allait peut-être vers un record d'abstention. Là, cette fois-ci, on voit bien comment des électeurs déçus, pas convaincus par le spectacle d'une campagne qui n'arrivait pas à trouver son centre de gravité, se diront « Eh bien, tout de même, j'ai envie d'aller dire mon mot parce que c'est l'avenir de ma collectivité qui est en jeu.
Et le fait que, on le disait, ce soit une élection qui se déroule en état d'urgence. On était tout à l'heure avec le porte-parole de la police nationale qui nous confirmait 50 000 policiers, plus tous les soldats de l'opération Sentinelle, plus tous les policiers municipaux. ça va faire des hommes en uniforme autour des bureaux de vote. Est-ce que ça aussi, ça peut changer un petit peu l'esprit, le climat de ce jour de
Bien
scrutin ?
Bien sûr, une élection, c'est un climat. Et on va certainement avoir un premier et un second tour qui sera un second tour d'une France en état d'urgence, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes en uniforme aux alentours des bureaux de vote. Ça sera là aussi une nouveauté radicale. Et quand on rentrera dans l'isoloir, dans les bureaux de vote, on aura certainement d'autres préoccupations en tête qu'une élection qui se serait déroulée, j'allais dire, dans un climat de sérénité. Mmh. Le climat n'est pas un climat de sérénité.
Merci Pascal Perrineau d'avoir été avec nous sur RTL. Merci à vous tous d'avoir fait le 32-10. Mais évidemment, ce n'est pas fini. On va passer à toute autre chose maintenant, à savoir cette initiative pour que 80% de la population soit formée aux gestes qui sauvent. On en parle dans un instant avec le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Mais évidemment, on vous attend au 32-10. Je vous rappelle l'info football qui est arrivée il y a quelques minutes. Lyon affrontera l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale de l'Europa League. L'autre demi-finale mettra aux prises le Celta Vigo et Manchester United. Je vous rappelle qu'en Ligue des Champions, on sait ce qui arrive.
À Monaco, ils ont pris le pire.
Voilà.
La Juventus de Turin, voilà.
RTL Midi.
Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau, Christelle Rebière.
Affranchir son courrier n'a jamais été aussi simple sur laposte.fr. Avec mon timbre en ligne, plus besoin de vous déplacer. Gagnez du temps et imprimez vous-même vos timbres en couleur ou en noir et blanc parmi un large choix de visuels. Rapide et économique, avec mon timbre en ligne, imprimé, c'est timbré sur laposte.fr.
Prenez la parole sur RTL.
Un seul numéro, 3210.
Et si on vous offrait chaque semaine 1000 bonnes raisons d'aller au resto?
Pour un moment entre amis, un premier rendez-vous, pour découvrir de nouvelles saveurs.
Chaque semaine, 1000 bons cadeaux sont à gagner pour aller au restaurant. Jouez en envoyant la photo d'une addition sur laviauresto.fr.
Au resto, la vie a du goût.
Règlement du tirage au sort sur laviauresto.fr.
Ce n'est pas anodin le choix d'une tomate à farcir. Ça ne se fait pas avec la première tomate venue.
Eh bien justement Stéphane, chez Gamme Vert, il en existe une idéale pour ça, c'est la tomate Pyros. Et jusqu'au 22 avril, la barquette de 6 godets est à 2,95€. Oui, 2,95€.
Gamme Vert, le goût du jardin.
Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok. Moi, en plus, dans mon forfait Pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Enfin, peut-être, mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Et moi, dans les DOM.
Et moi, dans les TOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Pendant ce temps, chez Renault...
Les séries limitées Limited portent bien leur nom. Prenez nouvelle Clio Limited. Écran tactile 7 pouces, jantes alliage, à partir de 149€ par mois sans apport, 4 ans de garantie et d'entretien inclus, même les pièces d'usure. C'est beau, mais jusqu'au 31 mai seulement. Ça, c'est très limited.
Offre pour nouvelle Clio Limited, 1.2 16V75, location longue durée 49 mois, 40 000 km maximum. Si acceptation par Diac et Sar, réservée aux particuliers dans le réseau participant. Renault.fr.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parizeau.
Et notre deuxième invité, Patrick Erdgen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au lendemain de cette attaque terroriste sur les Champs-Élysées. C'est un hasard du calendrier. Votre fédération et l'association des médecins urgentistes de France avaient remis hier à Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, un rapport sur la généralisation de la formation aux gestes qui sauvent. Chaque année en France, une personne sur cinq est victime d'un accident de la vie courante. 20 000 personnes en décèdent. L'enjeu est de taille. Il s'agit de former 80% de la population. Actuellement, moins de 30% des Français ont suivi la formation. Pourquoi est-ce qu'il est si important de former quasiment tout le monde ?
Alors, c'est important de former tout le monde parce que le citoyen est le premier acteur de la chaîne de secours, comme on dit. C'est-à-dire, en moyenne, en France, les secours arrivent en 13 minutes. Mm-hmm. Si vous faites le 18, le 112, si vous appelez les secours, en 13 minutes en moyenne, vous avez les sapeurs-pompiers qui arrivent, vous avez une unité hospitalière qui arrive en 20-30 minutes, donc pendant ce temps-là, pendant ces premières minutes, et notamment pendant ces 13 premières minutes schématiquement, vous êtes tout seul. Et donc si celui qui, ou celle qui est à côté de vous ne connaît pas ces gestes qui sauvent, eh bien il y a beaucoup de choses en 13 minutes qui peuvent basculer.
Mmh. Mmh. On comprend et on voit la nécessité. Maintenant, quand on regarde les chiffres, Patrick Herrienne, on peut s'interroger sur la faisabilité de ce que vous nous dites, parce que ça veut dire qu'il faut former 30 millions de personnes ?
Mais c'est un objectif extrêmement ambitieux, on est bien d'accord. L'objectif qui consiste à former 80% de la population aux gestes qui sauvent, alors qu'en France, on estime à un peu moins de 20%, effectivement, il est très important. Alors, plusieurs choses. D'abord,
mais comment on fait pour former 30 ? Parce qu'une formation, ça prend du temps. On va y venir, d'ailleurs, dans quelques minutes avec Bénédicte. Mais 30 millions de personnes ?
30 millions de personnes, ça ne se fait pas en un jour. Comment on fait ça ? Premièrement, avec une volonté. Cette volonté, elle est claire. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout partisane. Elle transcende un petit peu tous les partis. Et c'est une volonté qui peut être partagée par l'ensemble de la population. La deuxième chose, c'est qu'il faudra prendre du temps et qu'il faudra mettre un gros effort sur, effectivement, cette formation. C'est-à-dire, tous les ans, on pense qu'on arrive à former 3 à 4 millions. On pourrait former 3 à 4 millions de personnes par an et, en une dizaine d'années, arriver à ce pourcentage qui, effectivement, est énorme.
Par exemple, rendre la formation obligatoire pour tous les salariés ?
Alors, il y a plusieurs propositions qui ont été faites dans ce rapport. La première, elle est de le rendre obligatoire pour les fonctionnaires, tous les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, les fonctionnaires hospitaliers. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui ont un travail auprès de mineurs, auprès de personnes âgées, et les personnes qui travaillent sur la route. Voilà, les premières obligations qui pourraient exister, elles pourraient être sur ces personnes-là. Ensuite, inciter tous les citoyens, inciter des élus, inciter les sportifs, les personnes par exemple qui adhèrent à une fédération sportive, inciter beaucoup de populations, c'est-à-dire des classes de population très précises, d'une part, et d'autre part, le maximum de personnes, quelle que soit leur activité, à connaître ces gestes qui sauvent.
Alors justement, pour former, il faut des formateurs ou des formatrices. On a Bénédicte qui a fait le 32-10 de Dijon. Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour.
Vous êtes donc formatrice de premiers secours, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, je suis infirmière scolaire.
Oui.
Et donc, je forme aussi bien les adultes, l'éducation nationale que les élèves. Mmh. Je commence en maternelle même, maternelle avec les gestes qui sauvent, primaire et puis collège. Alors, moi, ma question, c'est bien gentil de parler, de former un maximum des citoyens, mais qui va former ces citoyens ? Quand on voit qu'en fait, chacun tire la couverture à soi, moi, par exemple, en tant que formatrice éducation nationale, je ne peux pas aller former, par exemple, les employés de l'entreprise de mon mari.
Ah, vous ne pouvez pas faire ça ailleurs qu'à l'éducation nationale ?
Non.
C'est très, très... En fait, c'est très compartimenté.
C'est très compartimenté. Et ça, ça me met dans une colère.
Ah bah oui.
Moi, quand on voit les besoins qu'il y a à l'heure actuelle de formation et chacun est là à garder ses prérogatives et puis je trouve que c'est
Patrice Herrienne, voilà, Bénédicte, elle est infirmière scolaire et fait de la formation au premier secours en milieu scolaire, mais elle peut pas aller le faire de l'autre côté de la rue.
Vous avez parfaitement raison, et c'est ce qu'on dit, ça fait même quelques mois qu'on le dit. Premièrement, il faut saluer ce que fait l'éducation nationale, parce que l'enseignement, en premier lieu, ça relève de l'éducation nationale. Moi, je veux rappeler ce qu'elle a dit rapidement, c'est que l'éducation nationale forme à plusieurs niveaux, premièrement, dès la maternelle, à des gestes élémentaires, et notamment à appeler les secours. Ensuite, l'éducation nationale forme les élèves des écoles primaires, et l'éducation nationale a une ambition qui n'est encore pas tout à fait atteinte, de former toutes les classes de 3e, c'est-à-dire 800 000 personnes environ, une tranche d'âge. Donc ça, il faut en premier lieu souligner l'implication de l'éducation nationale dans cette tâche-là, et bien sûr qu'il faudra que ces moyens soient renforcés. En deuxième lieu, elle a tout à fait raison, Bénédicte, lorsqu'elle nous dit, c'est incroyable, moi je peux former les élèves, les enseignants, mais je ne peux pas former les salariés. Nous pensons et nous disons...
Les gestes sont les mêmes. Hein.
Les gestes sont exactement les mêmes. Il faut faire converger différents dispositifs réglementaires. C'est-à-dire vous avez une réglementation du secourisme grand public, et puis vous avez une réglementation du secourisme au travail. C'est pas la même, elle relève du ministère du Travail. Et puis vous avez une réglementation du secourisme dans les milieux hospitaliers, qui n'est pas encore la même, qui est celle du ministère de la Santé. Alors nous, on pense très clairement que le contenu, c'est le même, les gestes, ce sont les mêmes, et que tout ça, ça doit être fondu, et que effectivement, un formateur doit être en capacité, non pas en termes de compétences, il l'est déjà, mais en capacité réglementairement de former n'importe qui. Et ça, ce sont des clivages qui doivent sauter et qui peuvent sauter très rapidement.
Eh bien voilà, une première chose qui pourrait être faite, une première proposition. Merci beaucoup, en tout cas, Bénédicte. On vous souhaite une bonne journée en Côte d'Or.
Merci.
On va marquer...
Bonne journée à vous aussi.
À bientôt. On marque une courte pause. On est toujours avec le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Patrick Herguen, et puis avec vous au 3210 pour parler de son objectif, de leur objectif, hein, aux sapeurs-pompiers, mais aussi aux médecins urgentistes de France, former au premier secours, aux gestes qui sauvent 80% de la population française. A tout de suite sur RTL.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Avant d'en revenir à la formation aux gestes qui sauvent, vous avez un petit cadeau pour tous ceux qui passent à l'antenne aujourd'hui, Laetitia.
Oui, aujourd'hui, nous offrons le nouvel album de Texas, Jump on Board, qui sort d'ailleurs aujourd'hui en partenariat avec RTL. Nous l'offrons à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne. Et puis rendez-vous samedi dans le grand studio de RTL avec Éric Jean-Jean. Texas jouera ses nouveaux titres en live.
Voilà. Objectif, former 80% de la population française aux gestes qui sauvent, aux premiers secours. C'est ce que souhaite donc le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Patrick Herguen, qui est avec nous. C'est son objectif. Et on parlait de ceux qui, justement, agissent en entreprise. On a l'un d'eux en ligne qui nous appelle de Blois. C'est Patrice. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Ah, vous êtes SST, sauveteur, secouriste du travail dans votre entreprise, c'est ça?
Oui, c'est ça même, oui.
Alors pourquoi vous avez voulu faire cette formation?
Cette formation, d'une part, notre entreprise nous l'a proposée, et d'autre part, c'était intéressant de concevoir et d'utiliser, parce que à tout moment, dans notre vie professionnelle, on peut s'attendre à un accident... Et c'est important, c'est d'être l'utilité, d'être proche, et on doit utiliser cette formation. Mmh. C'est vraiment le premier secours, c'est la première approche avant la deuxième phase des secours. Des secours prioritaires.
Donc ça, c'est une formation qui vous a été offerte au sein de votre entreprise,
oui, voilà.
Patrice. Vous n'avez rien payé, on est d'accord là-dessus?
On est bien d'accord, oui.
Parce que je pose la question à Patrick Herguen. L'objectif, si tout le monde, s'il est bien que 80% de la population soit formée, il y a quand même des gens qui vont devoir finalement prendre cette initiative d'eux-mêmes et peut-être le financer, Patrick Herguen.
Alors effectivement, il y a des questions autour du financement parce que rien n'est absolument gratuit. Mmh. Aujourd'hui, il y a d'une part des formations classiques de secourisme, alors qu'on appelle aujourd'hui prévention secours civique. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est pas très explicite d'ailleurs. Et ça dure environ 7 heures, ça coûte environ 60 euros. Aujourd'hui, c'est complètement à la charge du citoyen qui veut le faire. Mmh. Nous, on pense que c'est pas très incitatif quand même.
Ah non, pas très, il faut payer beaucoup
alors,
pour ça.
Alors, on propose, et c'est dans le rapport, dans le rapport remis par Patrick Pelloux et Eric Faure, que ces sommes-là, enfin que ce coût-là, soit déduit des impôts ou porté dans un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une incitation fiscale aux citoyens qui voudront faire cette formation entre guillemets longue, qui dure, enfin longue, c'est-à-dire une journée entière. Deuxièmement, c'est des modules courts, deux heures de formation aux gestes qui sauvent. Alors en deux heures, vous ne faites pas énormément de choses, mais vous apprenez l'essentiel, vous apprenez à appeler les secours en vous mettant en sécurité, à masser, à défibriller, à arrêter une hémorragie. Voilà, c'est vraiment le basique. Et ça, des formations de deux heures qui ont été lancées depuis la période post-attentat, il y a un peu moins de deux ans. Mmh. Ça, aujourd'hui, elles sont gratuites, mais ça a un coût.
C'est un coût pour la société, ça, pour
oui,
le coup.
Oui, parce qu'il faut, par exemple, acheter du matériel pédagogique. Nous, on propose que ce matériel pédagogique ait une fiscalité réduite, une TVA réduite, un taux plus faible que le taux de 20% actuel. Il y a plein de choses qu'on peut faire, effectivement, sur la partie financière, parce que c'est une question importante. Mm-hmm.
Donc, vous dites, en deux heures, on peut avoir une formation, quand même. Ça, c'est important, parce qu'on imaginait qu'il fallait au moins y passer la journée.
Alors, ça aussi, c'est un frein. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose de très compliqué, quelque chose de très académique, et pendant très longtemps, longtemps, on a fait du secourisme extrêmement compliqué parce qu'on voulait faire extrêmement bien. Alors, en 2 heures, on peut faire une initiation. Deux objectifs principaux. La première, c'est que vous retenez quand même un minimum. Comment j'appelle les secours, comment j'arrête une hémorragie, comment je réalise un massage cardiaque devant un arrêt cardiaque, et ça peut sauver une vie. La deuxième chose, c'est que beaucoup des personnes, et ça on l'a vu dans les casernes, on l'a vu dans les lieux publics, lorsqu'on a fait ces formations pendant les 2 ans qui viennent de passer, les gens, ça les incite à aller plus loin. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils vont dire, bah tiens, finalement, je veux creuser un petit peu et je vais faire la formation complète qui va durer une journée. Mmh. Voilà, et peut-être même encore aller plus loin et s'engager, par exemple, s'engager à devenir sapeur-pompier volontaire, s'engager à devenir bénévole dans une association de sécurité civile, s'engager dans une carrière professionnelle, pourquoi pas. Mmh. Donc, en quelque sorte, c'est un produit d'appel, la formation de 2 heures, qui vous donne un minimum de base et puis qui vous incite à aller plus loin.
Mmh. Patrice, vous pensez qu'il faudrait mieux valoriser ces formations au sein des entreprises ?
Oui, alors concernant mon entreprise, nous, c'est basé sur une journée complète.
Une journée complète. Donc,
depuis que je suis SSD, ça fait quelques années déjà, nous, c'est basé sur une journée complète et c'est vraiment très, très, très complet.
Et vous avez l'impression que la formation est vraiment bonne. Restez avec nous. On a Émilie qui nous appelle du Mans. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous n'avez pas pu la faire ?
Non.
Vous êtes institutrice, on dit professeur des écoles maintenant,
oui,
c'est ça.
Oui, professeur des écoles, c'est ça. Moi, je l'ai faite il y a très longtemps, j'étais en terminale, je l'ai faite avec l'infirmière scolaire. Mmh. Et ensuite, je l'ai faite par moi-même dans le cadre d'une formation au BNSSA, donc surveillant et sauveteur de baignade.
Oui.
Et puis, je l'ai réactivée une fois, parce qu'une fois qu'elle est faite, c'est bien, mais il faut aussi
un peu se rafraîchir la mémoire. Parce qu'on
il faut se rafraîchir
vite.
La mémoire, absolument. Et des fois, on a l'impression de savoir, et au final, repasser par une petite case de formation, ça fait du bien. Mmh. Et puis, je ne l'ai plus fait pendant un petit moment pour cause d'enfants, de travail, voilà. Et là, j'ai redemandé pour pouvoir la passer, et ça m'a été refusé.
C'est-à-dire à l'éducation nationale ?
À l'éducation nationale, sachant qu'on est quand même en dehors du contexte dans lequel nous sommes avec les attentats, on est quand même en contact avec des enfants 8 à 9 heures par jour.
Oui,
ça m'a été refusé.
Il y a des accidents dans les établissements scolaires.
Il y a des accidents tout le temps. Après, on peut être parfois sensibilisé, parfois non. Et donc, ça m'a été refusé plusieurs fois, sous prétexte que, les personnels nécessaires n'étaient pas disponibles ou complètement débordés, mais également parce que ça coûtait trop cher.
Oui, c'est un peu
ça, c'est quand même, c'est quand même un problème, Patrick Erdgen, ça. C'est pour que vous disiez qu'il faudrait en priorité former les fonctionnaires qui sont en contact avec des élèves.
Oui, parce que ce qui a été dit, ça résume bien les difficultés. Vous savez, tout le monde est d'accord avec les principes, mais quand il faut les mettre en application, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. L'an dernier, en 2016, les gestes qui sauvent ont été la grande cause nationale portée par le gouvernement, dans le contexte post-terroriste, certes, mais surtout dans le contexte en général des accidents de la vie courante et de ce qui arrive même en dehors du contexte des attentats. Mmh. Voilà. Et ça demande des moyens, ça demande une forte volonté d'une part des pouvoirs publics, d'autre part de toute la population. Et puis effectivement, il faut par exemple des formateurs. Et ce que dit cette auditrice est très certainement exact. C'est-à-dire quand vous avez par exemple un formateur pour former des centaines ou des milliers de personnes, et ben il peut pas tout faire en même temps.
Mais ça veut dire aussi que Émilie ne peut se faire former que par un formateur de l'éducation nationale, si je comprends bien.
Non, elle peut être formée
à titre privé.
Elle peut être formée à titre personnel, en se rapprochant d'une association agréée de sécurité civile. C'est une union de sapeurs-pompiers, c'est la Croix-Rouge française, la protection civile, c'est l'Ordre de Malte, c'est la Croix-Blanche, et j'en oublie, pardon pour celle que j'oublie. Mais effectivement, aujourd'hui, elle va le faire à titre personnel, sur son temps personnel. Elle va environ débourser 60 euros, c'est à peu près le coût moyen d'une formation d'une journée. Mmh. Et nous, ce qu'on pense, c'est que ça devrait être incité.
Mmh. Oui, bien sûr.
Émilie, vous confirmez, vous allez le faire sur votre temps personnel ?
Absolument, c'est prévu dès que début juillet, on n'aura plus les élèves. Mmh. Voilà.
On est avec Nicolas. Nicolas, il nous appelle du Rhône. Il est sapeur-pompier volontaire depuis déjà un certain temps, j'ai l'impression. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé quand vous aviez 17 ans, c'est ça ?
16 ans, à l'époque.
j'en ai maintenant 40, donc ça fait un petit moment, 24 ans, que je suis sapeur-pompier volontaire et j'ai passé mon monitorat, parce que j'étais à la protection civile et aux pompiers, donc secouriste civil pour faire des postes de secours et pompiers en activité. J'ai passé mon monitorat à l'âge de 22 ans, donc ça fait déjà un petit moment aussi que je suis moniteur. Et moi, je pense, au vu de votre émission, que la formation en milieu scolaire serait quand même la bienvenue. Déjà, puisque les jeunes sont dans le processus, on va dire, d'apprentissage et d'écoute.
Oui.
Donc mieux d'être formé. Et puis je réagis aussi en tant que pompier, parce qu'en fait nous manquons en France, enfin nous avons 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France, mais nous sommes continuellement en besoin.
Alors on va commencer par la formation des jeunes, justement. Patrick Hardgen, le ministère de l'Éducation nationale s'était engagé à former 100% des élèves sortant de 3e. On était à 30% l'année dernière. Comment vous l'expliquez?
Eh bien, je l'explique par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'entre l'objectif et la réalisation concrète, il y a les moyens consacrés, il y a les personnes qu'on accepte de former pour ça, les personnes à qui on va donner cette mission, et que c'est compliqué de faire plus de missions avec autant ou moins d'argent, avec autant ou moins de fonctionnaires.
Mais pourquoi on y arrive en Allemagne, au Canada, au Danemark et pas ici?
Probablement parce que la société de les pays que vous venez de citer est un petit peu plus sensible à ces questions-là.
Ah, c'est une question culturelle.
Probablement une question culturelle. Enfin, quand je dis probablement...
Et je vois quand même dans vos propositions, vous dites qu'il faut finalement un parcours, c'est-à-dire que ça commence à la maternelle et que ça aille jusqu'au lycée.
Oui, et aujourd'hui, l'Éducation nationale, je répète, le prévoit déjà, même si tout le monde ne peut pas le faire, c'est-à-dire dès la maternelle, une première sensibilisation, comment j'appelle au secours, ensuite à l'école primaire, ensuite au lycée, mais enfin tous les enseignements se répètent. C'est-à-dire de la maternelle au lycée, vous apprenez le français, vous apprenez des mathématiques à un niveau différent, avec des objectifs différents, mais naturellement qu'un apprentissage, c'est pas une fois entendre de quelque chose.
Et on le rappelle, lorsqu'on est formé, évidemment, on peut intervenir dans le cadre pour lequel on a été formé, par exemple dans son entreprise ou autre. Mais évidemment, c'est valable partout et à tout moment.
Et c'est ce que vous
soulignez, Pablo, qui est pompier volontaire lui aussi, et formateur.
Bonjour Pablo.
Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir.
Bah,
écoutez, effectivement, moi je suis directeur commercial et à côté je suis pompier volontaire depuis plus de 12 ans, donc formateur. Donc toutes mes formations ont été payées effectivement dans le point de vue pompier volontaire pour former à la fois des pompiers volontaires, à la fois professionnels. Donc c'est quand même un diplôme qui est valorisé. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a énormément de retard dans tout ce qui est secourisme, que ce soit d'un point de vue dans le milieu du professionnel, mais surtout dans la vie du quotidien. Dans certains pays, Suède et Finlande, ils ont moins plus de 20 ans d'écart par rapport à nous. Les gamins de 10 à 15 ans, ils sont déjà formés secourisme comme beaucoup de nos pompiers volontaires.
Mais dites-nous, par exemple, on peut se servir de ces gestes dans la vie courante,
et
au-delà de son
cadre.
Vous, par exemple, Pablo, ça vous est arrivé?
Ah bah alors, je vous parle du cadre en travail. Quand je suis beaucoup sur Paris, je tourne beaucoup. Quand je vois des AVP, donc des accidents de la voie publique, j'ai tendance spontanément à lui donner un coup de main jusqu'à ce que mes collègues pompiers de Paris arrivent sur place. Et puis ça nous est arrivé en sortie avec les pompiers sur Paris, on a dû s'arrêter et on a dû masser une personne, un motard qui venait de se faire percuter, et jusqu'à l'arrivée de nos collègues. Et donc voilà, dans la vie de tous les jours, et dès que ça touche notre propre famille, nos enfants, combien même c'est important. Et je pense que ça devrait être fait depuis, et là je rejoins carrément tous les autres auditeurs, ça devrait être fait dès le début, dès la scolarité. On a du temps sur les activités périscolaires, on a du temps, que ce soit dans l'entreprise, ça peut être utile tous les jours, et il est tellement plus facile de former tout le monde que de vivre avec un décès dans sa famille, juste parce qu'on a perdu du temps bêtement.
Voilà. Vous avez raison, c'est extrêmement
13
important.
13 minutes, on le rappelle, lors d'un accident de la vie courante, le délai moyen d'intervention c'est 13 minutes.
On ne veut pas se retrouver impuissant face à des proches ou même à des inconnus qui sont dans une situation de détresse totale. Voilà. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Patrice Hardgen.
Merci à vous, Patrick.
Vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonne journée. On fait une pause ?
Oui.
On retrouve Laurent Gérard.
Ah oui.
Et Laurent Gérard nous donne les toutes dernières consignes avant le premier tour de l'élection présidentielle.
Avant d'aller voter dimanche, nous allons parler un peu de culture.
Bonjour, c'est Jacques.
Bonjour Lojaco, enfin Jack Lang.
Lojaco, Jack Lang, ça m'est égal, Gwendal. Dès ce week-end, à Saint-Dié-des-Vosges, je vais organiser l'hiver des poètes.
L'hiver? Mais je comprends pas.
Oui, mais à Saint-Dié, l'hiver a commencé. Et pas plus tard que ce matin, j'ai dû briser la glace dans le broc et dans la cuvette de mon ensemble de toilettes pour pouvoir me débarbouiller. Et croyez-moi, il me tarde que les déodaciens soient fin raccordés à l'eau courante pour pouvoir me laver à l'eau chaude.
Ouh là, ça donne des frissons. Hein. Donnez-nous plutôt le programme de cet hiver des poètes.
D'abord, pour frapper les esprits, j'ai invité les plus grands poètes vosgiens à venir déclamer leurs œuvres au cours d'une grande soirée cabaret poétique.
Bien.
Qui se déroulera évidemment à la taverne du Vieux Bouc. Tout d'abord, se produiront des auteurs classiques comme le cousin du Diode.
Ah, le Diode, votre fidèle serviteur, hein, borgne, boiteux, baveux, je le rappelle.
C'est tout à fait ça, Kenza.
Oui.
Le cousin du Diode, donc.
Oui.
Charles Diodelaire.
Ah.
Récitera les sonnets en langue des signes.
Oui.
Car comme son cousin, il est également sourd et muet. Ce que vous avez oublié de souligner.
Oui, ça va être bien.
Seront également présents Paul Verlaine de Chèvre, oui, qui écrit toutes ses poésies à la pointe bique. Sont également programmés Gérard de Nerval d'Ajol, oui, et le poète menuisier Arthur Rabault, qui dira son chef-d'œuvre Le gâteau ivre. Sans oublier Guillaume Apollinaire de Beu, auteur des fameuses poésies dédiées à la bête des Vosges, Poème à loup.
Oh, dites donc, le Jaco, ça c'est un programme. Hein.
Ce n'est pas tout, Nafisatou.
Oui.
Au cours d'un entracte, la Madeleine et la Moguette, les filles de salle Kudjat de la taverne du Vieux Bouc, en se propulsant de table en table, avec leur fer à repasser, serviront à l'histoire du vin de sapin et de la liqueur de rhubarbe.
Mmh.
Oui, après quoi, nous attaquerons à la partie, disons, plus contemporaine de cet hiver des poètes. Et puisque j'évoquais nos serveuses Kudjat, le premier à monter sur scène sera Blaise Sans Bras. Un poète manchot qui rédige ses poèmes avec la bouche. Un autre taquineur de muse, faute de pouvoir vivre de sa plume, gagne sa vie en tant qu'arracheur de dents. Mais il sera des nôtres, je vais parler de Raymond Queneotte. Sont prévues aussi les participations de René Charabeu. La francophonie ne sera pas oubliée avec le poète sénégalais de passage dans les Vosges, Léopold Ossédar-Senghor.
Jaco, vous nous disiez que la poésie serait célébrée sous toutes ses formes. Ça inclut aussi la chanson?
J'allais y venir, Mounir. Un autre grand poète local, un poète engagé, Louis Aragondin, a accepté que ses poèmes soient mis en musique par un ancien récupérateur de métaux devenu chanteur vosgien de renom, Jean Ferraille.
Ah.
Accompagné.
Le fameux.
Par l'accordéoniste Yvette Ornière, Jean Ferraille interprétera donc Que serais-je sans toi ? Un poème inspiré à Louis Aragondin par la grande tempête de décembre 1999 qui avait arraché la toiture de sa bergerie du col de la Schlourte. Que serais-je sans toi, donc, sans oublier son plus grand tube, Mémé a perdu la raison. Mémé a perdu la raison. Mémé, elle ne sait plus que dire.
Ce sera sans doute un moment très émouvant, Lojaco.
Oui. Oui. Pour cette célébration de la poésie soit complète, j'ai souhaiter que Denise Dauphion, la lavandière de Saint-Dié, soit de la fête.
Oui.
En effet, mon ami.
Oui, votre ami, oui.
La mère Dauphion taquine elle aussi la muse entre deux lessives. Avec des poésies telles que Le loup et l'agneau,
oui,
Le bourreur et ses enfants, La jeune chatte et le vieux gland, La moule et le potiron, Les deux carrioles sans mulet.
Ces fables ont été publiées?
Oui, aux éditions Cacasterman.
Nous avons retrouvé dans les archives d'RTL les maquettes d'un album totalement inédit de Johnny en exclusivité. En voici quelques extraits.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Oh Marie. C'est beau le ukulélé. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, Il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bûche serait le bienvenu. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Laurent Gérard, vous connaissez le rendez-vous de Laurent Gérard, c'est chaque matin sur RTL à 9h moins le quart dans la matinale d'Yves Calvi. Ça veut dire qu'évidemment, ce sera lundi à 9h moins le quart, après le résultat du premier tour de cette élection. Il ne faudrait pas manquer le rendez-vous. Et sinon, ça sera avec nous juste avant 14h.
Et à 14h, Jacques Pradel pour l'heure du crime, comme tous les jours. Bel après-midi, bon week-end à lundi.